VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 9 février 2023. Rencontre diplomatique de haut niveau aujourd'hui au Burkina Faso, Mali entre le Mali, la Guinée et le Burkina, c'est à Ouagadougou. L'Érythrée rejette les accusations de violation des droits de l'homme au Tigré. Des secours sont attendus en Syrie depuis la Turquie après le séisme dont le bilan approche les 20 000 morts. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé à l'Union européenne des livraisons d'armes plus rapides face aux avancées de l'armée russe. Ne manquez pas dans cette édition notre page des sports ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Direction le Burkina Faso, au moins 17 personnes ont été tuées dans des attaques dans la boucle du Moun et du Centre-Nord. Deux civils ont été tués dans la boucle, 14 gendarmes et un supplétif de l'armée dans le Centre-Nord. Ces attaques ont eu lieu au moment où les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée sont réunis dans la capitale burkinabè ce jeudi pour mutualiser leurs efforts et entamer des actions communes. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
14 soldats ont été tués mercredi dans une embuscade. Selon la radio locale Radio Omega, il s'agit d'une unité mixte gendarme VDP, volontaire pour la défense de la patrie. L'attaque s'est produite à Koumestenga, près de Bouala, à une cinquantaine de kilomètres de Kaya. 7 gendarmes ont été tués et 7 autres corps de gendarmes ont été retrouvés lors des ratissages, expliquent des sources locales. Un supplétif a aussi été tué. Toujours mercredi, Médecins Sans Frontières a condamné l'assassinat de 2 de ses employés dans la boucle du Moun. MSF a décidé de suspendre ses activités médicales dans la région. Le gouvernement a confirmé ce jeudi la mort de ses 2 employés et a annoncé avoir retrouvé 2 autres employés. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée tiennent une réunion à Ouagadougou ce jeudi. Ces pays en transition veulent avoir une convergence de vues et faire face aux défis communs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Toujours au Burkina Faso, au moins 10 personnes ont été tuées lors de l'éboulement dans la nuit de mardi à mercredi d'une mine d'or artisanale située dans l'ouest du pays, ont annoncé ce jeudi des responsables d'une association d'orpailleurs. En février 2022 déjà, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal dans l'ouest du Burkina avait fait une 60aine de morts. Dans l'est de la RDC, 8 personnes ont été tuées et 28 blessées lorsque des manifestants de la province du Nord Kivu ont bloqué puis attaqué un convoi de soldats de la paix de l'ONU mardi, provoquant des affrontements, a indiqué mercredi le gouvernement local. Les habitants de la région accusent la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, et les forces de l'ordre régionales mises en place l'année dernière de ne pas les avoir protégés. Leur colère a suscité des manifestations dans et autour de la capitale provinciale Goma, dont certaines ont été meurtrières. Le sentiment anti-ONU s'est accru depuis qu'un groupe rebelle du M23 a lancé l'année dernière une violente offensive qui a provoqué l'exil de centaines de milliers de personnes et fait des dizaines de morts dans une partie déjà instable de la RDC. Au Congo, Brazzaville, voisin des partisans de l'ex-chef rebelle Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, demande aux autorités congolaises d'accorder une fonction officielle à leur leader, conformément aux accords ayant mis fin au conflit armé qui a secoué la région du Poul entre 2016 et 2017. Plus de 5 ans après la signature des accords, il n'y a pas de signal fort du côté du gouvernement pour déterminer sa stature, a déclaré hier Anne Philippe Bibi, chargé de l'organisation du Conseil national des Républicains, formation dirigée par le pasteur Ntoumi. Monsieur Ntoumi vit d'ailleurs retranché dans son fief du Poul, région fertile longtemps considérée comme le grenier de Brazzaville, tandis que le gouvernement affirme avoir ramassé et détruit au moins 8000 armes. Le président érythréen Isaias Afewerki a rejeté ce jeudi les accusations de violation des droits de l'homme par son armée dans la région éthiopienne du Tigré. Claire Morin-Jibou.
C'est depuis Nairobi qu'Isaias Afewerki a rejeté ces accusations d'une conférence de presse aux côtés de son homologue kényan William Ruto.
C'est un fantasme de ceux qui veulent faire dérailler tout processus de paix en train d'aboutir. Si cela vous intéresse, je vous dis que vous perdez votre temps. Tout le monde parle de violation des droits de l'homme, de viol, de pillage. C'est un fantasme dans l'esprit de ceux qui possèdent cette usine que j'appelle une usine de fabrication de désinformation. C'est un fantasme dans l'esprit de ceux qui possèdent cette usine que j'appelle une usine de fabrication de désinformation.
Les troupes érythréennes ont soutenu les forces gouvernementales éthiopiennes dans leur offensive lancée contre les rebelles du Tigré. Les États-Unis et des organisations de défense des droits humains les ont accusés d'avoir commis des atrocités, dont le massacre de centaines de civils. En novembre dernier, un accord de paix a été signé entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré, mais l'Érythrée n'a pas participé aux discussions et ses troupes sont toujours présentes dans la région.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a rencontré aujourd'hui à Khartoum des hauts responsables politiques soudanais, dont il a dit soutenir l'appel à lever les sanctions de l'ONU, frappant ce pays enlisé dans une profonde crise économique et politique. La visite du ministre russe des Affaires étrangères d'une durée de 2 jours s'inscrit dans la volonté de Moscou de renforcer son influence en Afrique, tandis que les Occidentaux se mobilisent pour isoler le pays depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'épidémie de choléra en cours depuis 2022 au Malawi a fait 1210 morts et près de 36 950 cas ont été signalés, a indiqué aujourd'hui l'OMS qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation. Le choléra est endémique au Malawi depuis 1998 avec des flambées pendant la saison des pluies, mais l'épidémie actuelle s'est étendue à la saison sèche. Selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie a été déclarée urgence de santé publique par le gouvernement du Malawi le 5 décembre dernier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un premier convoi d'aide aux zones rebelles du nord-ouest de la Syrie est entré depuis la Turquie aujourd'hui par le poste frontière de Bab al-Awa au quatrième jour après le séisme qui a fait près de 20 000 morts, un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Jacques Aristide.
Des camions chargés de matériel pour des tentes et de produits d'entretien sont entrés en territoire syrien. Il s'agit d'une aide qui était attendue avant le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, suivie de plus d'une centaine de secousses qui ont dévasté lundi dernier la Syrie et la Turquie. 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, indique l'Organisation mondiale de la santé. Elle redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra qui a fait sa réapparition en Syrie. Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne, qui tient début mars une conférence des donateurs pour la Turquie et la Syrie, ont observé un moment de silence pour les victimes. Ils ont exprimé leur solidarité avec le peuple turc en proposant d'accroître leur aide à la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite dans les endroits sinistrés, a fait un mea culpa face à la montée des critiques. Bien sûr qu'il y a des lacunes, il est impossible d'être préparé à un désastre pareil, a-t-il déclaré.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros à Bruxelles, où l'Union européenne s'est réunie pour un sommet. Il a réclamé des avions de combat. Les Européens ont pour l'instant refusé de s'engager sur les aéronefs demandés par l'Ukraine. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Face aux représentants des 27 pays membres de l'Union européenne, Volodymyr Zelensky a demandé de l'armement lourd, de longue portée et des avions.
Nous avons besoin d'artillerie, de munitions, de chars modernes, de missiles à longue portée, d'avions de chasse modernes. Merci de nous offrir le soutien militaire que vous nous offrez. Merci d'en faire davantage. Nous devons aller plus vite que notre agresseur.
Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que les 27 reconnaissent l'urgence d'agir face aux avancées de l'armée russe, mais il n'a pas parlé d'avions. Il a appelé à livrer à l'Ukraine des munitions, de l'artillerie, des missiles, des véhicules, des systèmes de défense. Le président ukrainien a été reçu à Londres mercredi par le premier ministre Rishi Sunak et le roi Charles III. Le chef du gouvernement britannique a promis de former des pilotes de chasse ukrainiens. M. Zelensky a été accueilli à Paris hier soir par Emmanuel Macron, qui a aussi convié le chancelier allemand Olaf Scholz pour un dîner à l'Élysée.
La Corée du Nord a exhibé des missiles balistiques intercontinentaux lors d'une parade militaire nocturne, une démonstration selon Pyongyang de sa plus grande capacité d'attaque nucléaire, rapportée jeudi l'agence de presse officielle KCNA. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté à la parade organisée dans la nuit de mercredi à jeudi pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l'armée nord-coréenne. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Dans un rapport publié ce jeudi, l'ONG environnementale Influence Map dénonce les géants de l'industrie sud-africaine, estimant qu'ils mettent en danger la transition énergétique en continuant de défendre des énergies fossiles comme le charbon et le gaz naturel. L'étude passe au crible la politique climatique de ces entreprises et 12 lobbies industriels. Le leader mondial de l'intelligence géographique Esri vient de lancer une nouvelle application en ligne, Sentinel 2 Landcover Explorer, dérivée de l'imagerie satellitaire Sentinel 2 de l'Agence spatiale européenne. Les cartes d'occupation et d'utilisation des sols sont un outil important pour les décideurs dans le monde, aussi bien au plan local que régional. Elles contribuent à éclairer les décisions de gestion des terres sur des questions telles que le développement durable. La Société internationale de services financiers Morgan Stanley organise aujourd'hui une démonstration mondiale à New York, réunissant des entreprises d'Afrique, des États-Unis, d'Europe et du Moyen-Orient. Toutes fondées par des femmes, les sociétés présenteront leurs projets devant plus de 200 investisseurs et partenaires potentiels. Ces 5 derniers mois, le laboratoire d'entreprises inclusives de la firme a soutenu sa 8e cohorte de jeunes pousses technologiques en proposant un programme d'accélération et débloquant des ressources à travers l'ensemble de son réseau.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacou.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La finale du Mondial des clubs va opposer le Real Madrid à Al Hilal.
Oui, en demi-finale hier mercredi, le Real Madrid a souffert pour écarter le club égyptien d'Al Ahly 4-1 à Rabat pour se qualifier pour la finale. Les Espagnols vont viser une 5e couronne mondiale face aux Saoudiens d'Al Hilal. Surprenant tombeur des Brésiliens de Flamengo mardi en demi-finale, les Madrilènes tenteront d'effacer samedi en finale leur début d'année 2023 mitigé avec une défaite en Supercoupe d'Espagne mi-janvier et plusieurs contre-performances en championnat. Deuxième de Liga, le Real a déjà 8 longueurs de retard sur le leader, le FC Barcelone.
Yacine Bounou parmi les nominés pour le prix du meilleur gardien.
Le gardien des Lions de l'Atlas et du FC Séville, le champion du monde argentin Emiliano Martinez et le Belge Thibaut Courtois prétendent au prix du meilleur gardien. Yacine Bounou a été l'un des héros du Maroc, premier pays africain qualifié pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. Martinez s'est distingué lors de ce mondial 2022 au Qatar en stoppant notamment 2 tirs au but en finale face à la France. Si la Belgique a raté son mondial éliminé dès le premier tour, Courtois a lui été l'un des artisans du 14e sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Comme pour les autres prix FIFA, le trophée sera remis lors des FIFA Best le 27 février à Paris.
Athlétisme, Goudav Sege, deuxième de tous les temps sur le 1000 en salle.
L'Éthiopienne championne du monde du 5000 mètres a établi hier mercredi la deuxième performance de tous les temps sur 1609 mètres en salle lors du meeting de Torun en Pologne. Goudav Tesge, 25 ans, déjà recordwoman du monde du 1500 mètres en salle depuis 2021, s'est attaquée au record du monde de sa compatriote Genzebe Dibaba, 4 minutes 13 secondes. Elle est restée assez loin, mais a tout de même établi le deuxième meilleur chrono de l'histoire en 4 minutes 16 secondes. La Britannique Kelly Hodgkinson a réussi la meilleure performance mondiale de l'année en 1 minute 57 secondes 87 sur 800 mètres, comme le champion olympique grec Miltiadis Tentoglou au saut en longueur, 8 mètres 40.
Ici aux États-Unis, Kyrie Irving réussit ses débuts à Dallas.
Transféré de Brooklyn à Dallas dimanche, Kyrie Irving a inscrit 24 points, contribuant à la victoire des Mavericks 110-104 sur les Los Angeles Clippers. L'ancien champion de la NBA avec Cleveland, 8 fois All-Star, a aussi capté 4 rebonds et donné 5 passes décisives, compensant ainsi l'absence de la star des Mavs. Luka Doncic, resté sur la touche en raison d'une blessure à un pied. À Boston, les Celtics, leaders de la NBA, ont battu les Philadelphia Sixers 106-99 malgré les 28 points de Joel Embiid, qui a fini meilleur marqueur de la rencontre. à Portland, Damien Lillard a réalisé un triple-double, 33 points, 10 rebonds, 11 passes décisives. Et les Trail Blazers sont venus à bout des Golden State Warriors, 125-122. Enfin, Sacramento a battu les Rockets, 130-128 à Houston.
Page de sport VOA Afrique, signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Bion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, à moins de 3 semaines des élections générales, les files d'attente continuent de s'allonger devant les distributeurs en manque de billets de banque et les stations d'essence dépourvues de carburant dans le plus grand pays producteur de pétrole du continent. Plusieurs émeutes ont éclaté dans certains États. Le point de la situation depuis Abuja avec notre correspondant Gilbert Tamba.
Devant les banques, des files interminables sont visibles et des nouveaux billets de banque sont introuvables. Les Nigériens peinent à se procurer ces nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira qui doivent remplacer les anciens demain vendredi 10 février, délai de rigueur accordé par la Banque centrale du Nigeria. Réaction de Doris Labeb et de Queen, elles viennent tous les matins à leur banque pour tenter en vain de retirer de l'argent.
Depuis 2 semaines maintenant, je n'ai pas accès à mon argent dans mon compte. La situation est difficile pour moi, même pour aller faire des achats. La carte de débit n'est pas acceptée dans toutes les boutiques. C'est une terrible expérience.
Je viens ici depuis lundi juste pour faire un retrait d'argent. Vous voyez que c'est difficile d'avoir de l'argent, mais vous n'avez pas accès. Nous ne savons pas ce qui se passe et on ne sait pas où on va dans ce pays. Ils doivent aider les populations. Il y a de l'argent, mais ils vendent.
L'impact de la politique monétaire et le chaos qui l'accompagne ont frustré de nombreux Nigériens opérant dans l'économie informelle dépendante de l'argent liquide pour faire des affaires, effectuer des paiements et profiter de certains services. Kabiru Abdoulaye est un commerçant résident à Nyanya, à la banlieue d'Abuja.
Si nous devons adopter cette politique sans cash, notre système de transactions bancaires doit être amélioré. Cela nous permettra d'utiliser nos téléphones ou bien n'importe quel autre moyen pour transférer de l'argent et faire des affaires. Moi, je suis un commerçant, donc cela va m'affecter pendant longtemps et pour beaucoup de choses.
Le Fonds monétaire international a demandé à la Banque centrale du Nigeria d'envisager de prolonger la date limite du 10 février pour l'échange des anciennes coupures, citant des difficultés causées par les perturbations des échanges et des paiements dus à la pénurie des nouveaux billets. Beaucoup de Nigériens pensent que c'est un acte délibéré du pouvoir en place d'avoir initié une politique impopulaire peu avant une élection présidentielle cruciale le 25 février. D'autres soutiennent le geste de la Banque centrale pour une seule raison. C'est le cas du directeur des programmes du Centre pour la démocratie et le développement, Austin Agbe.
Beaucoup de mesures ont été prises, mais surtout celles de la Banque centrale. Et en écoutant le président nigérian, Muhammadu Buhari, il a promis aux Nigérians qu'il ne reviendra pas sur la décision de changer les nouvelles coupures du Naira. Selon le président, et je le cite, il ne veut pas que quelqu'un vienne avec de l'argent pour acheter de votes, que ces élections doivent être crédibles. Et les Nigérians doivent voter pour le candidat de leur choix et non pour l'argent.
Le 26 octobre 2022, la Banque centrale du Nigeria a annoncé l'introduction des nouveaux billets de 200, 500 et 1000 naira dans le système financier, affirmant que son action n'a rien à voir avec la politique. Au Nigeria, l'achat de votes est souvent une décision individuelle et indépendante, devenue une pratique normalisée. Le tout sur fond d'une pénurie de carburant sans fin ces derniers jours. Le syndicat national des distributeurs du pétrole a suspendu ses activités suite à la situation critique qui affecte l'approvisionnement, la vente des produits à perte et la décision des autorités d'imposer la vente des produits à prix perdu. Des stations de service dans la capitale fédérale sont fermées et il n'y a pas de vente de carburant au grand désespoir des conducteurs. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
En Côte d'Ivoire, remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022 à Angela Merkel, l'ex-chancelière allemande, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés en 2015. La cérémonie s'est déroulée à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, en présence de plusieurs personnalités, dont des chefs d'État et les deux anciens présidents ivoiriens. Le point avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouise.
Le jury a été touché par la décision prise en 2015 par Angela Merkel, à l'époque chancelière allemande, d'avoir accueilli près de 1,2 million de réfugiés venus de la Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est une satisfaction particulière pour la Côte d'Ivoire.
Vous avez donné une grande leçon d'humanisme. Votre décision en faveur des réfugiés en 2015 rappelle les valeurs et les idéaux prônés par le président Félix Houphouët-Boigny.
C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire, a déclaré le président du jury, Denis Mukwege, prix qui comprend un chèque de 122 000 euros, une médaille en or et un diplôme. La réaction de Mme Merkel.
Je suis fort reconnaissante au jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO. J'ai décidé de faire en sorte que l'accent soit mis dans le cadre du décernement de ce prix à surmonter la guerre, à faire en sorte d'identifier les personnes qui sont déracinées et de venir en aide à ces personnes déplacées et déracinées.
L'ex-chancelière n'a pas démérité car elle a aussitôt fait don de 150 000 dollars de son prix à l'association ivoirienne d'aide à l'enfance en difficulté. Pour la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix épouse les grandes causes.
En décernant ce prix 2022, le jury a voulu distinguer la décision courageuse prise en 2015. Vous avez été, madame, à ce moment-là, la vision du courage en politique.
L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, président du PDCI, protecteur du prix, a félicité le jury pour ce choix judicieux.
Madame la chancelière, en vous accueillant ici à Yamoussoukro, nous accueillons une personnalité d'un courage et d'un moral politique exceptionnel.
Macky Sall, le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, est venu représenter l'ex-président Abdou Diouf, parrain de ce prix.
Madame la chancelière Angela Merkel, au nom du parrain, je dis que vous méritez ce prix. Poser un tel acte, c'est rappeler au monde que le droit d'asile est d'essence universelle. Félicitations vivement et te dire donc chant.
Et le jury a aussi décerné une mention d'honneur à Julienne Moussengue pour son engagement en faveur des droits des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Après une longue agonie, la région ouest africaine voit sa production audiovisuelle exploser, portée par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, l'industrie cinématographique sénégalaise en particulier connaît une évolution notoire entre les séries qui s'exportent et les producteurs sériens qui s'intéressent au savoir-faire local. Le Sénégal commence à exposer son potentiel. Récit Nani Talani.
Au bout d'une route, au milieu des baobabs, une école dans le centre du Sénégal. Silence, action. La caméra pivote lentement, se fixe sur l'acteur principal. L'équipe de tournage retient son souffle. Coupé. Assistant, technicien, acteur, tout le monde souffle. C'est le dernier jour du tournage. La fatigue se lit sur les visages et la pause déjeuner est bienvenue. La sortie est prévue dans quelques mois sur Netflix. Dans une salle exiguë d'une clinique de Dakar, un autre groupe, bien plus petit mais motivé, s'active pour boucler le prochain épisode de la série Karma, diffusée localement sur la chaîne TFM. Tout cela montre le potentiel cinématographique dont regorge le pays de la Teranga. Rosa Manuela Evora est actrice sénégalaise.
Je trouve que le Sénégal a un gros potentiel cinématographique, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau des productions, au niveau du matériel. Je sais qu'on a un potentiel et qu'on peut aller loin. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on s'arrête aux séries. Alors qu'en ce moment, il faut vraiment qu'on essaie de miser sur les films. Moi, à mon avis, à mon niveau, je trouve que les films permettent de plus propulser, en fait.
Au-delà des séries, l'Afrique francophone, contrairement au Nigeria, première puissance cinématographique continentale, produit très peu de téléfilms et assez peu de longs métrages. mais la production de comédies populaires pourrait s'accélérer avec la réapparition d'un réseau de salles de cinéma comme à Dakar et Abidjan. Kenza Madeira est étudiante dans une école de cinéma à Dakar.
Il y a effectivement une effervescence. On n'a jamais eu autant de séries. Mais oui, c'est en train d'évoluer. Franchement, c'est en train d'évoluer. Je pense que d'ici quelques temps, ça ira encore plus loin. Parce que tout le monde commence à se centrer un peu, à se retourner vers l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viendront. Et qu'il y aura à faire.
Les opportunités, il y en aura. Mais les artistes sénégalais, comme la plupart des artistes africains d'ailleurs, se plaignent du fait de ne pas vivre de leur art. C'est ce qu'affirme Manuela Evora, actrice sénégalaise.
Non, je ne pense pas que les acteurs puissent vivre de leur art, en tout cas ici au Sénégal. Après moi, je parle de ce que moi j'ai vu, de ce que je connais en fait. Peut-être que pour d'autres c'est différent, mais pour certains, s'ils n'ont pas quelque chose à côté, s'ils n'ont pas leur petit business à côté pour arrondir les fins de mois, ils ne s'en sortent pas.
Le cinéma, autrefois très populaire, a connu un déclin spectaculaire dans les années 2000, marqué par la disparition de presque toutes les salles d'Afrique francophone. Mais une nouvelle génération émerge aujourd'hui. L'école Kotradjmé a ouvert ses portes à Dakar en 2022 pour former au métier de scénariste et réalisateur et répondre à la demande du secteur. Les élèves de la première promotion terminent leur cursus confiants dans l'avenir.
Ici aux États-Unis, les législateurs républicains et démocrates débattent de la gestion par l'administration Biden d'un présumé ballon espion chinois qui a traversé le pays. Des Américains continuent de commenter l'incident. Les dernières réactions avec Elisabeth Lee, un reportage réalisé avec la contribution du service mandarin de la VOA RFI, Jacques Aristide.
Pour Washington, ce ballon espion chinois a violé l'espace aérien et la souveraineté des États-Unis. Pékin, pour sa part, affirme qu'il s'agissait d'un dirigeable civil dédié aux recherches météorologiques et qui s'était égaré. L'armée américaine l'a abattu samedi dernier. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain.
C'est à la fois inacceptable et irresponsable.
Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
C'est un comportement inacceptable et irresponsable.
Dans les rues de Washington DC, des Américains font part de leur point de vue sur cette polémique.
It's really hard to know which one is right because...
C'est vraiment difficile de savoir qui a raison, parce que pour moi c'est comme être une mère qui va dans une pièce et vous voyez vos deux enfants se disputer et vous ne savez pas qui dit la vérité. Vous ne savez pas qui ment, vous êtes la mère et vous ne pouvez pas être impartial, vous ne pouvez pas être injuste, donc vous leur dites « Ok, allez dans votre chambre parce que je n'ai absolument aucune idée de qui de vous deux a raison. »
Certains, comme Fabricio Rodriguez, attendent plus d'informations.
Je n'ai rien entendu qui puisse me convaincre d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est étrange que même un ballon de recherche soit là. Donc, je pense que c'est très suspect, mais je ne veux pas tirer une conclusion hâtive.
La Chine est d'avis qu'abattre le ballon était une action excessive. Mais James Kinney dit que l'ordre du président Joe Biden a été mesuré.
À mon avis, ce n'était pas une réaction excessive, parce que Biden a attendu que le ballon s'éloigne. S'il devait simplement l'abattre immédiatement, cela aurait été une réaction excessive, je pense.
S'il s'avère être un ballon espion, ce n'est pas grave, compte tenu de ce qu'il y a dans le ciel, d'après cette femme qui s'identifie comme Jennifer.
Il y a des satellites partout que les Chinois ont installés pour découvrir tout ce qu'ils ont probablement jamais voulu savoir sur quoi que ce soit en Amérique.
Christina, elle, croit que les États-Unis ont le droit de savoir ce que le ballon transportait et son objectif.
Sur le vol américain, si je trouve quelque chose dans mon jardin, oui, je vais voir ce que c'est. Si quelqu'un me dit non, c'est à moi, je me dis oui, mais c'est dans mon jardin. Pourquoi cela est-il dans mon jardin? C'est une caméra, es-tu en train d'espionner? Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Les enquêteurs américains vont examiner les débris du ballon pour en savoir davantage et les objectifs de Pékin.
Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Lionel Gaïmard, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. We'll be right back.